VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, deux poids lourds de l'opposition se rangent derrière Jean Ping pour tenter de déboulonner le président sortant Ali Bongo Ondimba lors de l'élection présidentielle du 27 août. Les intéressés tiennent un meeting à Libreville en ce moment même. Idriss Fall.
Guy Nzoubandama et Casimir Oyemba, deux ténors de l'opposition gabonaise, ont décidé de s'aligner derrière Jean Ping après une séance de travail jusqu'à 3h du matin. Monsieur Ping, 73 ans, ancien président de la Commission de l'Union africaine, se présente maintenant comme le candidat unique de l'opposition pour faire face au président sortant Ali Bongo Ondimba. Il a été plusieurs fois ministre sous le président Omar Bongo. Monsieur Nzoubandama, 70 ans, a été président de l'Assemblée nationale jusqu'à sa démission au mois de mars. Et Casimir Oyemba, 74 ans, a été, quant à lui, premier ministre d'Omar Bongo, puis gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ils sont tous des caciques de l'ancien régime qui sont passés dans le camp des opposants. Au total, 14 candidatures ont été validées pour l'élection présidentielle du 27 août, qui est un scrutin à un seul tour.
En RDC, deuxième jour du deuil national de 3 jours instauré après le massacre de plusieurs dizaines de civils le week-end dernier à Beni, dans l'est du pays. Un massacre attribué aux rebelles musulmans ougandais des ADF. Le premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo ainsi qu'une délégation comprenant le chef d'état-major des forces armées, le général Didier Etumba, et le chef de la police, le général Charles Bissengimana, sont aujourd'hui à Beni pour des consultations avec les autorités locales. Pour un coup de projecteur sur la situation dans la ville, Nicolas Pino a contacté Nikes Kibel Beloka, rédacteur en chef du journal Les Coulisses à Beni.
L'ambiance est toujours morose parce que les deuils continuent. Vous savez, le gouvernement avait décrété 3 jours de deuil. La délégation est arrivée et elle a visité les lieux où on a tué. Elle est maintenant au niveau de la mairie pour discuter un peu avec le comité urbain de sécurité. Mais le problème va au-delà de cette visite. Le président Kabila a été ici 3 jours avant les tueries. Je pense que pour la population, sa présence n'est pas nécessaire. Au moment où il a envoyé la délégation qui pourrait trouver des solutions au problème, le président est à Goma. Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Pour la population, ce qui compte, c'est qu'on mette fin au massacre. Le président avait promis et on attend des moyens.
Justement, quel est l'état des moyens des forces de sécurité sur place à Beni?
L'état des moyens, c'est faible. Parce que d'abord, les opérations durent 2 ans. Il n'y a jamais eu d'évaluation de troupes. Et on ne sait pas, il y a eu combien de morts, combien de blessés. Il faut faire une évaluation. Ça, c'est de 1. Et il faut faire la relève des troupes. Il faut équiper la police urbaine et la police militaire. Pour intervenir, vous savez, la ville elle-même, la police n'est pas équipée, la police n'a même pas un véhicule pour faire la patrouille. La police militaire, même chose. Donc il faut d'abord qu'on pense à doter la police urbaine et la police militaire de véhicules pour intervenir au moment où la population a besoin de ces services. Il y a des bataillons qui n'ont plus l'effectif voulu. Donc il faut vraiment faire tout un toilettage pour comprendre il y a combien de militaires au front, et en ajouter d'autres en cas de besoin.
Concernant l'identité des assaillants, les ADF Nalu, ces rebelles ougandais, sont souvent pointés du doigt. Est-ce que vous croyez à cette thèse?
Oui, il faut dépasser cette appellation de rebelles ougandais. C'est le djihad qui est régional parce que le recrutement s'est fait en Tanzanie, au Kenya, au Sud-Soudan, en Ouganda et en RDC. Il faut arriver à monter au deuxième palier pour comprendre que le terrorisme qui se passe ici est régional. Ce n'est plus un problème des rebelles ougandais. C'est vraiment régional. Il y a 5 ou 6 ou 8 nationalités qui se retrouvent dans les forêts de Beni.
Nikes Kibel Beloka, rédacteur en chef du journal Les Coulisses à Beni.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre le groupe islamiste Boko Haram au Cameroun maintenant. Les autorités camerounaises ont arrêté plusieurs membres des groupes d'autodéfense dans l'extrême nord du pays. Yaoundé craint que Boko Haram cherche à les retourner contre leur propre communauté. Michel Joseph.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, ne cache pas ses craintes.
Les dispositions ont été prises pour que les mauvais grains ne s'infiltrent pas pour gâter le bon travail qui a été fait, pour que les membres du comité de vigilance soient de bonne moralité. Il faut toujours qu'il y ait un cadre de réflexion pour amener les uns et les autres à travailler en synergie pour savoir dans quelle direction avancer. Ce que nous attendons d'eux, c'est la dénonciation, l'information pour permettre une intervention en temps réel.
Le gouverneur Bakary ne précise pas combien de suspects ont été arrêtés et ne donne pas non plus d'exemple de leur coopération présumée avec Boko Haram. Cependant, la presse locale rapporte qu'au moins 70 personnes ont été arrêtées par la police dans une douzaine de villages le long de la frontière et la répression continue. Le mois dernier, Amnesty International a accusé le Cameroun de procéder à des arrestations arbitraires et de se livrer aux abus des droits de l'homme sur des partisans supposés de Boko Haram. Pour Amnesty, plus de 100 personnes ont été condamnées à mort depuis 2015 dans des procès que l'association qualifie d'injustes. Le gouvernement a rejeté ce rapport, le qualifiant de tendancieux. Abdoul Garba, leader d'un groupe d'autodéfense à Kolofata, à la frontière avec le Nigeria, affirme que les insurgés promettent de meilleures paix aux jeunes et essaient d'utiliser certains d'entre eux comme espions.
Vous pouvez vraiment nous envoyer les denrées alimentaires et les matériels pour le travail. Nous allons redoubler l'effort pour travailler. Nous allons nous mobiliser, nous allons parler à tout le monde pour que tout le monde s'implique dans le travail comme il faut.
Ces groupes d'autodéfense ont aidé les militaires par des patrouilles dans les villages et coins les plus reculés. C'est un travail difficile et dangereux pour lequel il faudrait plus de formation, comme en témoigne Inoussa Ama, membre d'un groupe d'autodéfense à Kolofata.
Vers 21h qu'on commence le travail, jusqu'à 4h. Parmi nous, il faut les gens qui nous donnent aussi la formation. On travaille nuit et jour.
Yaoundé estime que la capacité des terroristes à mener des attaques à grande échelle a été fortement réduite, si bien qu'ils essaient maintenant de refournir leur rang en recrutant parmi les jeunes vulnérables au Cameroun.
En Zambie, vague d'interpellation après l'annonce de la victoire du président sortant Edgar Lungu au présidentiel. Quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le sud du pays. Leur faute, avoir manifesté contre la réélection du président Lungu lundi. Bagassi Koura.
Dès l'annonce officielle lundi des résultats donnant le président sortant Edgar Lungu vainqueur de la présidentielle avec 50,3% des voix, des manifestations ont spontanément éclaté dans la province méridionale du pays. C'est un bastion de Hakainde Hachilema, l'opposant battu avec 47,6% des voix. Beaucoup dans cette province ne s'attendaient pas à une défaite du candidat de l'opposition. Des émeutes ont donc éclaté dans plusieurs villes de la région, conduisant à l'arrestation de 150 personnes. C'est ce qu'indique le commissaire de la province, Godwin Firi. Dans un communiqué, il précise que les manifestants ont bloqué les routes avec des troncs d'arbres et des pneus en feu. L'UPND, le Parti uni pour le développement national de Hichilema, a annoncé dès lundi qu'il allait contester le résultat devant les tribunaux, assurant avoir des preuves de la manipulation des chiffres. Selon la Constitution, le président Edgar Lungu ne peut prêter serment avant que ce litige ne soit réglé.
Actualité hors d'Afrique. En Turquie, le parquet turc a requis deux peines de prison à vie à l'encontre de l'ex-imam Fethullah Gulen, accusé d'avoir ourdi le putsch avorté du 15 juillet dans le pays. Le point avec Nathalie Barge.
Le prédicateur, qui vit en exil aux États-Unis depuis 1999 et dont Ankara réclame l'extradition, est accusé d'avoir tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force et formé et dirigé un groupe terroriste armé, rapporte l'agence de presse Anadolu. Une peine supplémentaire de 1900 ans d'emprisonnement est aussi requise à son encontre. Fethullah Gulen nie toute implication dans le coup de force. Il est accusé depuis des années d'être à la tête d'un réseau terroriste appelé FETO qui aurait infiltré les institutions et services de renseignement. La FETO aurait collecté des fonds d'hommes d'affaires sous couvert de dons et transféré cet argent aux États-Unis via des banques aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie et en Allemagne. Une enquête a été ouverte en septembre 2015. 111 personnes ont été visées et 13 suspects sont toujours en détention préventive.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.